VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 20 janvier 2023. Avec vous, Eric Mandakidze. Voici d'abord le sommaire. La mission de l'ONU au Mali n'est pas viable sans augmentation des troupes, affirme un projet de rapport. Au Burkina, des nourrissons parmi la soixantaine de personnes enlevées la semaine dernière. Au Sénégal, l'opposant Sonko dit qu'il sera candidat en 2024 malgré son renvoi devant un tribunal pour viol présumé. Le Rwanda accuse la RDC d'abandonner un accord visant à ramener la paix dans l'est du pays. Washington appelle les Américains à parrainer des réfugiés pour leur installation permanente aux États-Unis. En France, manifestants en nombre et grève massive contre une réforme des retraites décriée. Réunion cruciale en Allemagne, des pays soutenant militairement l'Ukraine et Kiev appelle l'Occident à cesser de trembler devant Poutine et à considérablement augmenter ses livraisons d'armes lourdes pour pouvoir vaincre l'armée russe. Chan 2022 en Algérie, le Ghana est qualifié pour les quarts de finale. Les détails dans les sports de Yacouba ou Edraogo. La croissance en Afrique a connu un ralentissement en 2022 et l'inflation est au plus haut depuis plus d'une décennie, selon l'ABAD. Nous en parlons dans la page économie, mais d'abord le journal. La mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali n'est pas viable sans augmenter le nombre de casques bleus, selon un projet de rapport de l'ONU qui évoque un possible retrait des troupes si des conditions clés ne sont pas remplies. Le Mali est l'un des environnements opérationnels les plus difficiles pour le maintien de la paix, résume le rapport, soulignant la vaste zone d'opération, l'état des infrastructures et les menaces omniprésentes des divers groupes sévissant dans la région. La MINUSMA a été créée en 2013 pour aider à stabiliser un état menacé d'effondrement sous la poussée djihadiste, protéger les civils, contribuer à l'effort de paix, défendre les droits humains. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko réitère qu'il sera candidat à la présidentielle de 2024 au lendemain de son renvoi devant un tribunal pour viol présumé. Le point avec Abdourahmane Dia.
Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024 et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement, a dit Ousmane Sonko. Pour l'opposant, le juge était en mission commandée pour le pouvoir. Depuis que je suis en politique, je suis systématiquement persécuté par cette justice, a-t-il déclaré. M. Sonko, troisième à la présidentielle de 2019, a encore dénoncé devant la presse ce qu'il appelle une vraie fausse affaire judiciaire, une affaire strictement politique instrumentalisée par le pouvoir de Macky Sall dans le dessein exclusif de l'écarter de la prochaine élection présidentielle. Ses avocats indiquent que son renvoi devant une cour criminelle est susceptible de recours. Ousmane Sonko est inculpé depuis mars 2021 pour viol et menace de mort sur une employée d'un salon de beauté de Dakar où il est allé se faire masser. Le juge d'instruction vient d'ordonner qu'il soit jugé devant une cour criminelle, mais la date de son procès n'est pas encore annoncée. Ousmane Sonko a toujours clamé son innocence.
Au Burkina Faso, des nourrissons figurent parmi la soixantaine de personnes enlevées la semaine dernière dans le nord du pays par des djihadistes présumés, a indiqué ce jeudi le procureur de Djibo qui a annoncé qu'une enquête a été ouverte. Le précédent bilan faisait état d'une cinquantaine de femmes enlevées. Mercredi, le mouvement burkinabé des droits de l'homme a établi une liste non exhaustive de 61 femmes enlevées, dont au moins 26 âgées de moins de 18 ans. Il a également appelé les autorités à œuvrer à l'amélioration des conditions d'existence des populations vivant dans les zones à fort défi sécuritaire en leur apportant davantage d'aide et d'assistance en assurant un accès humanitaire effectif à leur profit. Près d'un million de personnes vivent actuellement dans ces zones sous blocus dans le nord ou l'est du pays, selon les Nations Unies. Le Rwanda a accusé hier la RDC d'abandonner un accord visant à ramener la paix dans l'est de la RDC. Le point avec Eddy Sango.
Kigali a accusé Kinshasa de chercher à sortir des processus de paix engagés à Luanda et à Nairobi. Les tentatives de la RDC de saboter ou d'abandonner ces accords régionaux ne peuvent qu'être vues comme un choix visant à perpétuer les conflits et l'insécurité, ont indiqué les autorités rwandaises dans un communiqué. C'est donc l'escalade verbale, car le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a déploré la veille que les rebelles du M23 et les autorités rwandaises qui les soutiennent n'ont toujours pas respecté leurs engagements. Christophe Lutundula a ajouté que son gouvernement réaffirme sa détermination à sauvegarder l'intégrité territoriale et s'y défendre par tous les moyens. Le Rwanda a répondu dès le lendemain que cette déclaration constitue une menace. Sur le terrain, en dépit des annonces des cessez-le-feu et des retraits de troupes, les combats persistent entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. La RDC accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion. Kigali dément et accuse de son côté l'armée congolaise des collusions avec les rebelles Hutu-Rwandais des FDLR implantés dans l'est de la RDC depuis le génocide de 1994 au Rwanda.
Le président de la Sierra Leone a promulgué ce jeudi une loi sur l'égalité et la responsabilisation des femmes imposant que toutes les organisations publiques ou privées réservent 30% de leurs emplois aux femmes, y compris aux postes de direction dans une société qui favorise traditionnellement les hommes. Le texte s'applique aussi au Parlement où 30% des 146 sièges devront être occupés par des femmes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Joe Biden a minimisé ce jeudi le tollé autour de la découverte de documents confidentiels datant de l'époque de sa vice-présidence dans un cercle de réflexion et dans sa maison de famille, affirmant que c'était du vent. Les États-Unis ont annoncé ce jeudi le lancement d'un nouveau programme d'accueil de réfugiés afin d'augmenter le nombre extrêmement bas d'admission dans le pays. Pour la première fois, un citoyen américain pourra directement parrainer l'accueil d'un réfugié aux États-Unis sans passer par une association ou des ONG. Yacouba Ouedraogo.
Tout Américain ou dans un premier temps par groupe de 5 voulant parrainer un réfugié devra passer des contrôles de sécurité poussés et apporter la preuve de ses capacités de financement. Aucune incitation financière n'est prévue pour ces sponsors qui devront démontrer qu'ils ont à leur disposition 2 275 $ par réfugié pendant 3 mois pour l'achat d'habits et autres nécessités de base. Le programme s'appliquera pour les réfugiés provenant de tous les pays dans le monde et vise à leur installation permanente aux États-Unis. Le président Joe Biden a fixé à 125 000 le nombre de réfugiés autorisés à venir chaque année fiscale, d'octobre à octobre. Mais les États-Unis sont loin du compte. Le Welcome Court représente la plus grande innovation en matière d'accueil de réfugiés au cours des 4 dernières décennies, a affirmé le secrétaire d'État Anthony Blinken dans un communiqué. Au cours de la première année, l'objectif est de mobiliser jusqu'à 10 000 Américains pour accueillir environ 5 000 réfugiés, a-t-il dit. Des associations de réfugiés et diverses ONG ont salué l'initiative. Elles critiquent depuis des années le nombre extrêmement bas de réfugiés admis chaque année, citant en particulier les lenteurs administratives.
Les ministres de la Défense des pays occidentaux apportant une aide militaire aux Ukrainiens, au premier rang desquels l'Américain Lloyd Austin, se retrouvent aujourd'hui à Ramstein, en Allemagne, afin de coordonner la poursuite de l'assistance militaire à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit ce jeudi attendre des décisions fortes de la rencontre. Mohamedou Oumfa.
Le groupe de contact pour l'Ukraine, créé et dirigé par les États-Unis et qui rassemble une cinquantaine de pays, s'est réuni sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Le ministre ukrainien de la Défense doit participer à la réunion. Déjà hier, le Royaume-Uni s'est engagé à fournir 600 missiles Brimstone, le Danemark pour 19 canons César de fabrication française et la Suède veut livrer des canons automoteurs Archer. Tous ces systèmes ont tous une portée de plusieurs dizaines de kilomètres, mais inférieure à ce que réclame l'Ukraine. Kiev a appelé à considérablement augmenter leur livraison d'armes, en particulier des chars lourds, et à cesser de trembler devant Poutine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande des chars d'assaut et des systèmes de défense anti-aérienne. Le Kremlin a d'ailleurs adressé jeudi un avertissement clair. La livraison d'armes de plus longue portée signifierait que le conflit atteindrait un nouveau palier et cela ne promet rien de bon pour la sécurité européenne.
Le président brésilien va rencontrer son homologue américain à Washington le 10 février, a annoncé ce jeudi le département de presse de la présidence brésilienne. La rencontre doit permettre des échanges approfondis sur des sujets de préoccupation communs, tels le changement climatique, le développement économique, la paix et la sécurité.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez Erosine Munezero dans sa Minute Éco.
La tenue de la COP28 en décembre aux Émirats Arabes Unis, puissance pétrolière mondiale, sera l'occasion d'aborder les questions difficiles des énergies fossiles, a déclaré jeudi Simon Steele, le secrétaire exécutif de l'ONU Climat. Le 12 janvier, la nomination comme président de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat, le PDG du géant pétrolier Abu Dhabi National Oil Company, a suscité de vives critiques parmi les militants de l'environnement. En Égypte, premier pollueur au plastique du Moyen-Orient et d'Afrique, de jeunes entrepreneurs tentent de transformer les millions de tonnes de plastique qui inondent le Nil, la Méditerranée et les décharges à ciel ouvert. Le pays de 104 millions d'habitants, où 67% des déchets ne sont pas gérés adéquatement selon la Banque mondiale, s'est engagé à diviser par deux sa consommation de plastique à usage unique d'ici 2030. La croissance en Afrique a connu un ralentissement en 2022 et l'inflation est au plus haut depuis plus d'une décennie, souligne un rapport publié jeudi par la Banque africaine de développement. La croissance moyenne estimée du PIB réel a ralenti, passant de 4,8% en 2021 à 3,8% en 2022 et devrait se stabiliser à 4% en 2023 et 2024, précise la BAD, qui salue toutefois la résilience économique des pays africains malgré les incertitudes mondiales.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec vous. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Ghana qualifié pour les quarts de finale du CHAN 2022.
Oui, les Black Galaxies ont arraché leur ticket pour le tour suivant à l'issue d'un match renversant face au Soudan lors de leur deuxième et dernière sortie en phase de poule au stade Shahid Amlaoui de Constantine, 3-1. Le Ghana se qualifie ainsi malgré son faux départ d'entrée face à Madagascar, vainqueur 1-2, car il est sûr de finir parmi les deux premiers de cette poule, peu importe le résultat du match entre le Soudan et Madagascar lundi. Pour rappel, il n'y aura pas de troisième match de groupe dans cette poule C, composée de trois équipes après le retrait du Maroc.
Cette phase de groupe se poursuit aujourd'hui avec deux affiches, Angola-Mauritanie et République du Congo-Niger.
Défait par les Camerounais 1-0 lors de leur premier match, les jeunes Congolais ne perdent pas espoir. Leur coach Jean-Élie Ngoya Obakas espère un rebond face au Niger. Nous avons passé en revue nos erreurs lors du premier match et travaillé sur les solutions que nous pouvons apporter, a-t-il assuré en conférence d'avant-match. L'Angola, qui a un point, affronte la Mauritanie. Donc, ce sera le premier match.
Le Burkinabé Dango Ouattara signe à Bournemouth.
Le club français du FC Lorient et celui anglais de Bournemouth ont officialisé le transfert de Dango Ouattara dans un contrat de 5 ans et demi. Le montant du transfert s'élève à une vingtaine de millions d'euros selon les deux clubs. C'est un record de transfert pour le FC Lorient. Dango Ouattara est arrivé en France en octobre 2020, transféré du Majestic SC, un club de la première division burkinabé. Il a disputé 44 matchs avec Lorient et a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives.
Match de gala, le Paris Saint-Germain, Messi et Ronaldo assurent le spectacle à Riyad, en Arabie Saoudite.
Le Paris Saint-Germain s'est imposé dans un match amical à rebondissement, gagné contre une sélection saoudienne 5-4, jeudi à Riyad. Les deux stars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont chacune marqué pour leur probable dernier duel. Côté spectacle et marketing, ce match de prestige est une réussite. Le stade était rempli et tremblait de bonheur à chaque ballon de CR7. Auteur d'un doublé, le PSG a encaissé plus de 10 millions d'euros. Une somme bienvenue alors que le fair play financier le surveille de près. Côté sportif, en revanche, ce lointain déplacement, alors que le PSG a concédé en janvier ses deux premières défaites de la saison, n'a pas apporté de réponse sur la fragilité défensive des Parisiens.
NBA, avant de nous quitter, Yacouba, Chicago domine Détroit dans le show à l'américaine de Paris.
Les Bulls de Chicago ont battu Détroit 126-108 hier jeudi dans la salle de Paris-Bercy, comble et acquise à leur cause. Sono Afon, gratin du basket français, joueur de la NBA devenu des mythes. Le show à l'américaine a bien été au rendez-vous à Bercy. Les Pistons, un peu moins. Bercy a vibré. Chicago a gagné. Les stars des Bulls ont brillé. Une soirée américaine avant le retour de la spectaculaire NBA l'an prochain dans la capitale française, probablement, a indiqué son patron Adam Silver mercredi à la veille du match, qualifiant déjà l'opération de cette année de succès. C'est le deuxième match de l'histoire de la Ligue de basket nord-américaine délocalisée en France.
Et c'est tout pour les sports. Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manela Kidza. Place au dossier du jour. Combattre l'extrémisme violent en Afrique, et plus particulièrement au Sahel, par la multiplication des initiatives de paix sur le continent. C'est le vœu des participants à la troisième conférence africaine sur la paix qui prend fin ce jeudi à Nouakchott. Un défi qui pourrait se heurter à l'absence d'une stratégie de sécurité commune. La correspondance de Mohamed Diop dans la capitale mauritanienne.
La conférence africaine sur la paix, par les biais de son initiateur, Cheikh Abdellah Ben Beya, président du Forum de Dubaï pour la paix, appelle les gouvernements, intellectuels et peuples africains à s'inscrire dans une dynamique de paix par la multiplication des initiatives de paix à travers le continent. Cela pour vaincre l'extrémisme violent. Un tel défi n'est toutefois relevable que par la mutualisation des stratégies antiterroristes. Ce que préconise l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, parmi les panélistes de la rencontre.
Il est temps que l'Afrique comprenne que le défi qui est devant nous doit être relevé. Il faut qu'on se donne les moyens. Et nous, notre vision, c'est que ça passe par la mutualisation. Arrêtons de proposer des solutions individuelles par pays. Ce qu'on appelle stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, moi, ça me pose problème. Les terroristes n'ont pas de stratégie nationale, ils ont une stratégie globale. Pourquoi on ne peut pas, encore une fois, en Afrique, mettre nos forces ensemble, nos esprits, nos cerveaux ensemble, nos moyens ensemble, pour nous occuper de cette question, de ce défi qui a commencé avec la Libye, le sud de l'Algérie. Aujourd'hui, ils sont à Cabo Delgado, au Mozambique.
Encore, la paix en Afrique n'est pas seulement une question de riposte militaire. Il faut aussi vaincre le combat d'idées, notamment chez les jeunes générations, ajoute l'ancien ministre.
Il y a une bataille, une guerre des mentalités. Et les jeunes sont des cibles, justement, de ces gens qui veulent les pervertir, les amener vers le pessimisme. Combien de jeunes ont renoncé à tout espoir, à tout rêve de devenir quelque chose, quelqu'un en Afrique? Des jeunes qui ne rêvent que de partir, que de partir. Parce que c'est comme si on leur a dit, vous n'avez rien à attendre de votre continent, de ses richesses, de sa beauté, etc. Votre avenir est ailleurs. Ce n'est pas vrai. Leur avenir, leur destin, c'est l'Afrique.
Léa fait partie de ces jeunes qui assistent à la conférence.
Les forces armées qui sont là pour notre sécurité, c'est bien, mais il faut absolument restaurer le dialogue entre les jeunes et la gouvernance. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que c'est les jeunes qui sont les acteurs, c'est les jeunes qui sont notre avenir, et sans eux, rien n'est possible.
L'invité d'honneur de la troisième édition de la conférence est le président nigérian, Muhammadu Buhari, dont le pays fait face au groupe djihadiste armé Boko Haram qui menace la paix. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Plusieurs personnes sont portées disparues après un naufrage causé par une collision d'une embarcation avec un radeau de bois dans la nuit de mardi à mercredi près de Bansakoussou dans la province de l'Équateur. Le gouverneur de la province ne donne pas de bilan, mais la société civile parle de plus d'une centaine de morts. Eddy Issango a joint à Bansakoussou le président de la société civile, Jean-Louis Wangela.
Des rescapés m'auraient dit que des vivants peut-être dans les 55. Donc ils étaient plus ou moins 200 personnes. On peut dire que des centaines de gens sont décédés avec leurs biens. Donc plus de 100 et quelques, 100, plus ou moins 45 personnes ne se voient plus. Les enfants, des femmes, il y a d'autres qui devaient aller étudier à Bandaka. Vraiment, il y a aussi des responsables. Vraiment, il y a beaucoup de gens. Actuellement ici, il y a des deuils généraux.
Et quand vous dites qu'ils ne se voient pas, est-ce qu'on a déjà ramassé les corps? Est-ce qu'on... en fait, ils sont décédés ou ils sont simplement portés disparus?
Donc, les gens qui étaient venus, il y a des rescapés, ils ont dit qu'il y a d'autres cadavres qu'on commence à retrouver. Et d'autres, souvent, il faut 48 heures pour que les cadavres se retrouvent. Donc, une situation qui est vraie vraiment ici, chez nous, que la pirogue a causé un naufrage, d'autres victimes commencent à se voir, et il y a d'autres cadavres qui ne se voient même pas. Il y a
combien des
forces de sécurité étaient les matins, et nous aussi.
Combien de corps ont-ils été déjà retrouvés?
C'est dans les dizaines de corps qui sont retrouvés. Alors, il faut que nous allions être demain sur le terrain. Demain, nous serons là sur le terrain. Je vais envoyer quelqu'un de la société civile avec le comité de sécurité. Ils seront là vers les matins. On peut le soir, mais il y a un problème de climat. Alors, on s'est entendu avec la tête que demain à 9h, il faut qu'on puisse descendre. Je vais envoyer quelqu'un là-bas pour parcourir cette réalité sur le terrain.
Qu'est-ce qui a causé l'accident? Comment l'accident s'est-il produit?
L'accident a causé, je vous ai dit que c'est... Vous voyez ici, nous avons des difficultés pour l'embarquement. Les moyens de transport sont difficiles. C'est que des pirogues qui aident les gens. C'était une pirogue, là, c'était deux pirogues. Et ça a causé... surchargement. Il y a eu un moment, donc les services concernés n'ont pas contrôlé, ça n'a pas réglementé. Il y a eu un moment surchargement. Donc il y a eu beaucoup de gens, il y a beaucoup de matériel, c'est ça qui a causé ça. Et c'était vers 24 heures, c'était à minuit que cet accident a causé.
Donc il y a eu collision entre ce qu'on appelle deux baleineurs. Deux baleineurs, c'est des grosses pirogues où il y a des gens qui sont en fait. Pirogue motorisée, c'est ça? Il y a eu collusion?
Là, il y a eu nos forces côté dit avec de l'eau. L'eau, parce que la baleinière, là, cette pirogue n'était pas bon état. L'eau a pénétré. Dès que d'habitude, quand ils naviguent, ils évacuent de l'eau. Et les gens qui étaient là, cette service, ils n'ont pas pu faire ce service-là. L'eau a pénétré jusqu'à arriver dans les 1 mètre, 2 mètres. C'est ça la cause. Donc, l'eau est entrée, et ça, vers minuit, et ça s'est surchargé encore. Et c'était vraiment au milieu de la rivière. Donc, c'est impossible, mais les rescapés, c'est grâce à Dieu qu'ils se sont sauvés.
Jean-Louis Wangela, président de la société civile à Bassankoussou.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
L'Afrique du Sud a annoncé ce jeudi qu'elle va organiser le mois prochain des exercices maritimes conjoints de 10 jours avec la Russie et la Chine. L'Alliance démocratique, parti d'opposition, a critiqué cette décision alors que le parti au pouvoir, l'ANC, s'est rangé du côté du gouvernement. Le reportage de Kate Bartlett depuis Johannesburg, le récit avec Idriss Fall.
Les exercices Afrique du Sud, Chine-Russie, baptisés Opération Mossi, qui signifie fumée, vont se dérouler au large de Durban du 17 au 26 février. Si l'Afrique du Sud a déjà organisé des exercices conjoints avec la Russie par le passé en 2019, ces derniers coïncident avec le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Pretoria est officiellement resté neutre, refusant de condamner l'invasion russe lors d'un vote de l'ONU l'année dernière. Mais le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, estime que le pouvoir a choisi son camp. Cobus Maré est chargé des questions de défense au sein de ce parti.
Alors que notre gouvernement a prétendu être neutre, voici un autre des nombreux actes où l'ANC expose clairement son favoritisme envers la Russie et ne fait rien d'autre que montrer et prouver le manque de neutralité du gouvernement dans cette affaire.
L'invasion de l'Ukraine a été largement condamnée au niveau mondial. Les gouvernements occidentaux ont imposé à la Russie un isolement diplomatique ainsi que de lourdes sanctions et fourni des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Steven Gerst est responsable du programme Russie-Afrique à l'Institut sud-africain des affaires internationales. Il estime qu'en accueillant ces exercices, l'Afrique du Sud risque de s'isoler davantage et faire le jeu de la Russie.
La Russie essaie d'indiquer qu'elle n'est pas isolée sur le plan international et qu'elle a une portée militaire. Et l'Afrique du Sud, en acceptant d'organiser ces manœuvres, alimente le récit de Moscou.
L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud entretient des liens idéologiques et historiques étroits avec la Russie. L'ex-Union soviétique a soutenu sa lutte contre l'apartheid. L'Afrique du Sud et la Russie sont aussi membres des BRICS, qui regroupent les principales économies émergentes, dont le Brésil, l'Inde et la Chine. Si de nombreux pays ont critiqué l'invasion russe de l'Ukraine, certaines nations, dont celle du BRICS, ne l'ont pas fait. L'ambassadrice d'Ukraine en Afrique du Sud, Lyubov Arabitova, a dénoncé vivement ces exercices militaires.
And on South Africa, China, Russia, military exercises.
Pour ces exercices militaires entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, laissez-moi simplement vous demander ce qu'une armée qui tue des innocents, une armée de violeurs et de meurtriers peut apporter à l'armée sud-africaine comme valeur ajoutée.
Certains analystes estiment que le monde vit une sorte de nouvelle guerre froide, avec d'un côté les nations autoritaires que sont la Chine et la Russie, et de l'autre les démocraties occidentales. Malgré toutes les pressions, Pretoria a continué à améliorer ses relations avec Moscou. En décembre, l'Afrique du Sud a reçu un navire russe qui livrait des munitions commandées avant l'invasion de l'Ukraine. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Grace Naledi Mandisa Pandor, accueille lundi son homologue russe, Sergei Lavrov. En août prochain, l'Afrique du Sud va accueillir le sommet des BRICS et a invité le président russe Vladimir Poutine.
Selon le dernier rapport annuel sur la situation de l'inclusion financière de l'UEMOA, le taux de bancarisation stricte est passé de 19,0% à seulement 21,8% entre 2020 et 2021. Des chiffres montrent le faible accès des populations aux services bancaires. Abdoulaye Barry, un ressortissant guinéen installé en France, a développé une plateforme de paiement digital pour faciliter les transactions financières en Afrique, notamment dans les zones les plus reculées et pour la diaspora. Thierry Kaoré l'a rencontré à Las Vegas lors du Salon international de la technologie CES, son reportage.
Offrir aux Africains la possibilité, où qu'ils soient, de participer à la construction d'une nouvelle économie africaine, tel est le leitmotiv de la plateforme Wayamo. Plus besoin de cash pour faire le plein d'essence, payer une course de taxi ou régler vos factures. Wayamo propose un système de paiement électronique instantané et sécurisé. En créant cette plateforme, le PDG Abdoulaye Barry, expert en informatique, dit vouloir aider les populations à utiliser moins de liquidités et avoir accès aux services bancaires.
En Afrique, il y a encore plus d'un milliard de personnes qui dépendent énormément de cash. Donc, ils ne peuvent pas recevoir leur salaire si ce n'est pas en ayant recours à du cash. Cela a comme impact qu'ils n'ont pas de track record parce qu'aucune institution financière ne connaît leurs revenus. Donc, nous venons résoudre cette problématique à la fois en Afrique, mais également pour sa diaspora.
Selon Sondes Alia, chargé de marketing de Wayamo, ce service est surtout bénéfique pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire en Afrique.
Nous cherchons vraiment à résoudre le problème d'inclusion financière. C'est notre mission principale. Et autour de cela, Barry, notre PDG, a développé toute cette idée pour pouvoir vraiment aider les personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires.
Conçu par un Africain pour l'Afrique et sa diaspora, la plateforme Wayamo se donne pour mission d'être la solution digitale de paiement et d'inclusion financière panafricaine. Yann Chapuy est investisseur à Wayamo.
Je pense que nous prenons en compte la situation locale et les problèmes locaux, donc ce n'est pas juste une grande entreprise étrangère qui apporte ses solutions en Afrique.
Bringing its solutions to Africa, we're taking care of the people's needs.
Nous nous soucions des besoins des gens et de leur inclusion.
Worry about inclusion.
Créée en 2019, l'application Wayamo, disponible sur Play Store et App Store, fonctionne en Europe, en Guinée et compte plus de 500 000 clients. Les promoteurs veulent aller encore plus loin et ouvrir des agences dans 10 autres pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, la Belgique l'Italie, l'Espagne et les États-Unis.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Fatouma Kalala Alimassi a aussi assuré la mise en onde. Merci à toute l'équipe de rédaction. Eric Manilakiza était avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24 sur votre site voafrique.com. Sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.